Boris Tchekhnavorian et l'Orchestre Philharmonique d'Arménie nous offraient ses études pour orchestre d'Alexander Spendiarian. Durant sa carrière, Spendiarian a eu l'occasion de croiser à Moscou le jeune Khatchatourian, dont il appréciait le potentiel. Et de son côté, Khatchatourian disait de son aîné « Je suis profondément convaincu que Spendiarian et Komitas sont les patriarches de la musique classique arménienne. Ils ont tracé les principales tendances de l'évolution de l'art musical arménien pendant de nombreuses décennies à venir. » Plus encore que Spendiarian, c'est Khatchatourian qui va inspirer à son tour toute une pléiade de compositeurs qui entrent dans la carrière musicale après 1940 et qui sont aujourd'hui les figures les plus en vue de l'école de composition arménienne, à savoir Alexandre Harutunian, Arnaud Babadjian et Édouard Mirzoyan. Alexandre Harutunian est né en 1920 à Yerevan et mort dans cette ville en 2012. Tout jeune, Harutunian a eu l'occasion de rencontrer Alexander Spendiarian et Aram Khatchatourian, qui l'ont tous deux encouragé dans sa vocation de compositeur. Le jeune homme se forme d'abord en Arménie, puis il se perfectionne au conservatoire de Moscou. Diplôme en poche, il rentre au pays, où il enseigne au conservatoire d'État de Yerevan. En 1954, il est nommé directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique d'Arménie, un poste qu'il occupe jusqu'en 1990. Sa musique rencontre un vif succès, tant en Arménie qu'à l'étranger. Elle s'inspire de la musique folklorique traditionnelle arménienne et séduit par sa spontanéité, sa franchise, la vivacité de sa pensée et la pureté du sentiment. L'œuvre la plus connue d'Alexandre Harutunian est un concerto pour trompette qui fait aujourd'hui partie du répertoire de tous les trompettistes du monde, au même titre que les concertos de Telemann et de Haydn.
Thank you.
L'œuvre la plus célèbre d'Alexandra Rotunian, concerto pour trompette et orchestre en la bémol majeur, composé en 1950. L'œuvre a été interprétée par tous les plus grands trompettistes au monde. Nous l'écoutions ici dans la version de Lucienne Renaud d'Invary, accompagnée par l'Orchestre Symphonique de Lucerne, direction Michael Sanderling. Comme pour Arotunian, c'est Aram Khachaturian qui encourage les débuts du jeune Arno Babadjian à entreprendre des études de musique. Arno Babadjian est né à Yerevan en 1921, d'un père mathématicien de profession et flûtiste de musique traditionnelle arménienne. Le jeune Arnaud débute vers l'âge de 5 ans en jouant au piano. À 7 ans, il entre au conservatoire d'Yerevan dans le groupe des enfants qui ont de la facilité et se révèle particulièrement doué. Du coup, il est admis au conservatoire de musique de Gnessine à Moscou où il étudie le piano et la composition. Diplôme en poche, il rentre à Yerevan où il devient professeur au conservatoire. Le talent d'Arno Babadjian s'exprime le plus pleinement dans la musique instrumentale et la musique de chambre. Babadjian a une envergure proprement rachmaninovienne au piano et sa palette étincelle de couleurs peu communes. Le pianiste est le fidèle conseiller de Babadjian, compositeur. Je propose d'écouter le mouvement lent de son trio en fa dièse mineur, une œuvre qu'il a lui-même beaucoup jouée, notamment en compagnie de David Oistrakh au violon et de Sviatoslav Kutchevitsky au violoncelle. La version que je vous propose est celle de Vadim Glutzman, accompagné par Johannes Moser et Yevgeny Soudbin. Thank you. Une dernière note qui se fait attendre, c'est l'Andante, le mouvement lent du trio en fa dièse mineur d'Arnaud Babadjanian. Vadim Glutzman était au violon, Johannes Moser au violoncelle et Yevgeny Soudbin au piano. Merci d'écouter Space 2. Le temps me manque pour vous parler encore de Tigrane Mirzoyan, qui est avec Arnaud Barbajanian et Alexander Aroutounian l'une des grandes figures de la musique en Arménie, né en 1921 comme Barbajanian et mort en 1912 comme Aroutounian. Il a formé un grand nombre de compositeurs dont les œuvres sont déjà reconnues par le public. Si nous avons le temps en fin d'émission, on écoutera une de ses compositions. Mais si ce n'est pas le cas, alors je vous propose d'aller découvrir son œuvre qui se distingue par la profondeur et le poids de l'idée, la richesse et la grandeur des émotions et surtout une grande concentration intérieure. On sent dans l'œuvre de Mirzoyan une longue et austère maturation et cette finesse de détail, cette netteté de composition qui permettent de la comparer à l'œuvre d'un graveur. Donc je vous propose de refermer ces mémoires d'Arménie avec un représentant de la nouvelle génération de compositeurs arméniens, Tigran Mansourian. Tigran est né à Beyrouth en 1939. En 1947, sa famille emménage en Arménie. Mansourian étudie à l'Académie de Yerevan où il enseigne aujourd'hui et il s'est rapidement imposé dans son pays par ses œuvres très poétiques et l'amour qu'il porte à l'héritage musical et littéraire arménien. Il est réputé pour sa musique de chambre et surtout ses œuvres vocales. Mais écoutons ce qu'il en dit lui-même. La musique vocale m'apparaît comme une sphère particulièrement propice à l'expérience, à la recherche d'un lexique personnel et vivant. Premièrement, le mot peut servir et sert effectivement d'élément formateur. Grâce à lui, le langage musical évite cet écueil qui le guette d'un certain flou, de l'instabilité. Deuxièmement, la musique vocale exige une parfaite sincérité. Elle interdit de feindre. Il me semble que le plus urgent pour nous, c'est de nous débarrasser des lieux communs qui ont cours dans notre langage musical. Il est très important de travailler dans le sillage de notre école nationale et d'être l'un des maillons de son développement. La musique vocale occupe donc dans l'œuvre de Tigran Mansourian une place privilégiée, ce qui lui a valu d'entrer en relation avec des compositeurs comme Arvo Pärt, Valentin Silvestrov, Edison Denisov et surtout des interprètes comme le Hilliard Ensemble. De Tigran Mansourian, je vous propose de découvrir quelques pages d'un Agnus Dei qui n'a rien d'ordinaire. Thank you. On se retire sur la pointe des pieds de cet Agnus Dei de Tigran Mansourian, un Agnus Dei écrit pour ensemble instrumental. Varti Maoelian était au violon, Boris Alakverdian à la clarinette, Michael Kaufmann au violoncelle et Steven Van Auwert au piano. Ainsi prend fin cette oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, mise en onde aujourd'hui par David Golan, que j'aurais envie d'appeler David Golan. Merci de votre fidélité, à demain.
Bazar, le best-of, Sébastien Pache.
Le sixième jour, Bazar se fait best-of. On ouvre ce début de soirée avec un retour sur différents moments de la programmation chamarrée de l'émission, ainsi que quelques moments radiophoniques, notamment un passage à l'acte, notre séquence opéra de 18h. Ce soir, on revient sur le Candide de Bernstein, entre tremblement de terre, Lisboète, traite d'êtres humains et assassinat par maladresse. À 18h30, un doigt de Mozart et de ses lettres galantes, voire scatologiques, si la scatologie est le superlatif de la galanterie, c'est nos gros textes de la musique. Passez un bon moment dans ce best-of de Bazar. Merci d'être là. On vous souhaite d'orge et d'orja un bon week-end.
Allez, en place! On va commencer de suite le bazar.
L'ouverture d'une opérette de Jacques Offenbach, Les Bavards, et non pas Les Bazards, ce qui serait un lapsus remarquablement intelligent, Jean-Pierre Heck à la direction de l'orchestre de l'opéra de Rouen-Normandie. Thank you. Le quatuor Prazak dans le quatrième mouvement du 12e quatuor à cordes en Fa majeur d'Antonín Dvorak. De Dvorak, nous passons à Saint-Martin ou Sammartini, Giovanni Battista Sammartini ou Jean-Baptiste Saint-Martin. Alors d'habitude, c'est plutôt les Italiens qui francisent leur nom, comme Jean-Baptiste Lully en arrivant en France. Et là, c'est l'inverse. Alexis Saint-Martin, oboïste français qui est venu habiter Turin puis Milan, ce qui fait que Giovanni Battista n'a jamais été Jean-Baptiste. Ou alors peut-être vaguement pour son papa. Ce musicien né en 1700 a joué un grand rôle dans la naissance et le développement de la symphonie. Néanmoins, ce n'est pas de la musique symphonique que nous allons entendre de lui ce soir, mais un air pour basse, Beatus Vir.
Thank you.
Beatus Vir, un air de basse interprété par Markus Niedermayer et l'accompagnement du Capriccio Baroque Orchestra sous la direction de Johannes Strobel, une composition de l'italien Giovanni Battista Sammartini. C'est un enregistrement de RTS Espace 2 qui date de 2008. Nous passons à Carl-Philipp Emanuel Bach maintenant avec de la musique instrumentale, un prestissimo tiré de son premier concerto pour clavecin et ensemble instrumental.
Thank you.
Le troisième mouvement du premier concerto pour clavecin en fa majeur de Carl Philipp Emanuel Bach. Petra Müller-Jans était à la tête du Freiburger Baroque Orchester pour accompagner Andreas Steyer au clavecin. Juste derrière ce caprice pour violon de Paganini, nous passerons à l'acte dans Bazar. Le violoniste François Sochard dans le premier des 24 caprices pour violon de Niccolo Paganini.
Bazar, le best-of.
Sur les choses de 18h, on passe à l'acte dans Bazar. Cette semaine, on évoque le Candide de Leonard Bernstein, œuvre à mi-chemin entre les genres qui ne se laissent pas facilement étiqueter.
Eh bien, pour rester dans le ton d'une émission dominée par la culture et le classicisme, nous vous présentons en italo-germano-franglais le duo d'amour du troisième acte du Barbier de Die Fledermaus, de Giuseppe Wagner ou de Sheila Verdi. Enfin, de toute façon, c'est n'importe quoi.
Bazar, passage à l'acte.
On considère parfois Candide comme une opérette ou comme une comédie musicale, mais dans tous les cas, on est sûr de se tromper. C'est un produit de Broadway, le quartier des théâtres à New York, indissociable du conte de Voltaire dont il est tiré, donc français dans l'âme, associant séquences musicales hispanisantes et musique savante. On y rit beaucoup, on y est sarcastique, on y danse, on y chante en chœur, parfois ce sont des voix lyriques, d'autres fois elles semblent tout droit sorties d'un dessin animé. Et puis, il y a les nombreuses lectures, versions, mises en scène, qui offrent plus ou moins de place à ces différents critères et qui bouleversent tant la forme que le fond. Si l'on commence par ouvrir une des partitions ou l'un des livrets, on constate que Bernstein a sous-titré Candide « Comic Operator ». Ça, c'est un drôle de néologisme qui fait un peu fourre-tout lorsqu'on traduit « opérette comique ». Ça n'existe pas vraiment, ou plutôt, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un spécimen, Candide. Décortiquons. L'opéra comique, c'est un genre lyrique typiquement français, aux sujets aimables et sentimentaux, faisant alterner dialogue parlé et page musicale. Une opérette, c'est un petit opéra, une œuvre lyrique de petite dimension. Tous les pays ont leur école d'opérette, de l'opérette viennoise des Lehár, Strauss et Zuppé, en passant par les zarzuela espagnoles. Le 19e siècle français en a fait également une forme d'opéra comique. Côté anglo-saxon, l'opérette est le pendant de la musical comedy. Et c'est là que c'est piégeux, parce que la traduction comédie musicale de musical comedy, correspondant à un genre français apparu entre les deux guerres qui faisait sienne la devise « prima le parole, dopo la musica » qu'à la musical comedy de Broadway ou West End. Les marqueurs de cette comédie musicale qui parle anglais forment un amalgame de théâtre parlé, de musique instrumentale empruntant à une variété de genres, notamment le jazz, de chant, de danse, souvent très rythmée, et de somptueuses mises en scène. C'est le Showboat d'Oscar Hammerstein, créé en 1927, qu'on considère comme le premier exemple caractéristique et cohérent de musical. Ainsi, Bernstein était à la hauteur de ses références lorsqu'il étiqueta son Candide en tant que comic operetta, puisqu'il y a bien de l'opérette, de l'opéra comique et de la musical comedy. Ce petit coup de tut-tut-tut nous remet sur les rails de l'intrigue de cette œuvre. Candide et Cunégonde, le premier de modeste extraction, la seconde de noblesse westphalienne, se sont donné quelques caresses, ce qui n'a pas été du goût des seigneurs, les parents de celle-ci. Candide s'est fait éjecter du château de Thunder Ten Tronk, a fini dans l'armée bulgare qui a exterminé les westphaliens,